Salut, c'est Alexis, vous êtes sur le podcast de Contournement et vous allez écouter l'épisode 99. Oui, déjà 99. Et j'ai voulu profiter de l'occasion d'avoir passé un mois à Athènes en compagnie de membres de la communauté No Code pour vous faire un format audio un petit peu différent qui mélange des petites séquences un petit peu de style mémo vocal que j'ai enregistré en me baladant dans Athènes avec des petites séquences d'interviews courte avec 7 des personnes qui sont venues nous rendre visite à Athènes pendant ce mois qu'on a passé là-bas. Et voilà, un petit montage d'un petit peu de musique, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu intéressant, vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, donc c'est un nouveau format, on reviendra bientôt évidemment avec des interviews des acteurs et des actrices de la communauté, mais pour l'instant je vous laisse avec ce récit d'un mois passé à Athènes, à la No Code House.
Salut, c'est Alexis. C'est la première petite séquence audio que j'enregistre à Athènes. Je l'enregistre dans notre appart, dans lequel vous entendez peut-être un peu de bruit de la route. Je suis à la fenêtre, mais la fenêtre fermée. On est malheureusement sur une rue extrêmement bruyante. Voilà, donc je me suis dit, bon, si j'ouvre la fenêtre, là, peut-être que vous m'entendrez encore moins bien. Bon, évidemment, les prochains petite séquence, petit mémo voc, on va dire, ça sera plutôt quand je me baladerai. Mais voilà, là, on est déjà mardi, on est arrivé donc samedi, Stan, Muriel et moi-même. Donc voilà, Muriel qui est notre première invitée, Muriel qui est formatrice chez Auto, une beubleuse de la communauté Auto. Et puis là, on est en train, au moment où je vous parle, on est en train d'attendre Georges, donc voilà, qui est product manager, qui est le responsable du produit, vraiment le directeur produit chez DraftBeat. Voilà, et vous entendrez peut-être que ma voix est un peu bizarre, un peu écaillée, peut-être pas très forte aussi d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça donnera après post-production. Mais voilà, parce qu'on est aussi quelques 5 jours après le No Code Summit qui a eu lieu fin septembre. Et c'était un grand moment, c'est un grand moment où je suis arrivé en ayant perdu déjà la moitié de ma voix. Voilà, et ça n'a rien arrangé évidemment de passer 2 jours à parler avec beaucoup de monde. Donc voilà, donc j'ai un petit peu du mal à récupérer. Donc c'est peut-être pour ça que cette première semaine, il n'y aura pas beaucoup de petites séquences vocales. Enfin voilà, je vais essayer quand même un petit peu parce que j'ai vraiment cette ambition de faire un chouette épisode de podcast avec plein de petites séquences comme ça. On va alterner, on va voir. Hein, je vous en dirai plus dans les prochaines séquences. Mais voilà, donc là, c'est la première. On est à Athènes, c'est la suite de la No Code House. Vous vous souvenez, premier projet No Code House à Lisbonne. Vous pouvez écouter donc l'épisode de podcast spécial, donc qui était en hors-série, puisque c'était vraiment une tentative un petit peu pour voir ce que ça allait donner. A priori, ça vous a plu, ça a plu en tout cas à certaines personnes qui nous ont fait des retours, et notamment ces petites séquences audio que j'enregistre comme ça tout seul en parlant. Donc voilà, on va voir. Donc là, ça sera un petit peu différent. Il y aura des séquences comme ça, et puis il y aura aussi un petit peu des parties d'interview, hein, un petit peu plus montées, un petit peu plus organisées, on va voir, et puis on va essayer de mettre un petit peu de musique ou pas. Voilà, je sais pas trop, voilà, c'est une aventure, encore une fois, c'est une expérience, vous savez, hein, on teste des choses, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on fait dans la communauté No Code. Voilà, alors pour vous en dire un petit peu plus sur Athènes, donc on est dans le quartier de Keramikos. Voilà, un très beau quartier. J'ai la vue sur l'Acropole au moment où je vous parle. Là, je vois l'Acropole au loin, le Parthénon. C'est absolument magnifique, incroyable. Voilà, c'est la deuxième fois que je viens dans cette ville. Pour ma part, Stan est déjà venu 2 fois. Muriel, c'était la première. Je sais que certains de nos invités qui arrivent sont déjà venus. Voilà, et moi, j'avais beaucoup aimé cette semaine que j'avais passée à Athènes. Donc, j'avais très envie de repasser un petit peu plus de temps. Donc voilà, écoutez, je vous en dis pas plus, surtout que là ça me fait vraiment tirer sur ma voix. En plus j'ai peur un peu que le résultat soit assez affreux. Voilà, mais écoutez, c'est le premier log, le premier petit message du journal de bord, voilà, de la No Code House Athènes. Et puis je vous dis à très bientôt.
Je suis Georges Duverger, je suis anciennement Head of Product à DraftBeat, qui était une compagnie qui permet de faire des applications iOS et Android, des applications natives, sans avoir à coder. Et donc c'est ma connexion avec le mouvement No Code. Et voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait récemment. Je suis à l'origine un ingénieur qui a éventuellement transitionné vers le produit depuis maintenant presque 10 ans. J'ai 38 ans depuis hier, je suis marié, Je vis aux États-Unis avec ma femme, près de Boston, ma femme qui est américaine, et on a deux petites filles, deux jumelles de 3 ans. Ma perspective sur la communauté No Code France, du point de vue, en le voyant des États-Unis, est excellente, peut-être même plus que ce que les gens imaginent en France, parce que je ne pense pas qu'on ait un équivalent de cette qualité-là aux États-Unis. Beaucoup des initiatives qui sont faites aux États-Unis sont ou bien moins populaires ou bien plus commerciales. Et donc vraiment, la communauté No Code France, je pense, à quelque chose d'assez rare, d'unique et de grande qualité. Ne serait-ce pas déjà le nombre de membres, mais aussi l'activité qui est faite sur le Slack, sur le Twitch, sur YouTube en général. Donc, je suis très impressionné. C'est pour ça que j'essaie depuis un an ou deux d'y participer comme je peux. J'aimerais déjà rencontrer un peu plus de gens. Donc ça, c'est juste purement l'aspect communautaire. Il y a des gens qui sont passionnés, qui font des choses super intéressantes. Donc ma visite au No Code House à Athènes aujourd'hui est un peu l'occasion de rencontrer Alex, Stan, Muriel et d'autres personnes. Donc c'est donc vraiment juste un aspect rencontre, un aspect aussi vouloir redonner un peu à la communauté, parce que comme beaucoup d'entre nous, ça fait maintenant quelques années que je travaille dans le no-code et donc j'ai quelques notions, quelques expertises dans quelques domaines, donc j'aimerais bien redonner un peu de cette valeur-là à la communauté. Et puis aussi, finalement, juste pour l'aspect juste un peu brainstorming, il y a un mouvement, il y a une effervescence, qu'est-ce qui peut encore être fait dans le domaine, donc voir un peu les idées qu'ont les gens, obtenir du feedback dans Slack, quand on se pose des questions, des choses comme ça, c'est très intéressant. Les outils que je trouve remarquables dans nos codes, ce serait... moi, je suis un peu biaisé de mon parcours, de mon background d'ingénieur. Donc, j'aime beaucoup les outils comme Xano. J'aime beaucoup les outils qui ne sont pas forcément catalogués no-code, mais comme Replit, qui sont vraiment, pour moi, quand tu es ingénieur, c'est un point d'entrée pour un ingénieur dans le no-code. Donc, ce ne sont pas des outils qui sont forcément les plus accessibles aux gens qui ne savent pas du tout coder, mais ils permettent un nouveau niveau d'abstraction pour des gens qui savent coder, qui a énormément de valeur. Donc, j'aime bien un peu cette approche-là. Ma théorie à moi, c'est que être ingénieur aujourd'hui et faire du no-code, c'est un avantage stratégique. Donc, si tu es ingénieur et que tu ne t'intéresses pas ou que tu ne regardes pas au no-code, ce n'est pas grave, mais c'est dommage. C'est une perte d'une opportunité parce qu'on est les mieux positionnés. Les gens qui savent coder sont le mieux positionnés aujourd'hui pour extraire le maximum de valeur de tous ces outils-là. Et ça ne va pas durer, parce que l'objectif de ces outils, c'est qu'ils soient accessibles par tout le monde. Donc, au fur et à mesure du temps, on va perdre notre avantage stratégique. Pour l'instant, on l'a. Et c'était, à mon sens, un peu dommage que pas plus d'ingénieurs ou de gens techniques s'y intéressent, parce qu'ils pourraient vraiment décupler leurs compétences en utilisant ces outils. Donc, je suis venu rencontrer Alex, Stan et Muriel à Athènes. Dans le No Code House, qui est la deuxième édition, première en Portugal et cette fois-ci en Grèce. Ça se passe toujours très bien, on est encore en plein dedans. Je suis arrivé par l'avion, c'est installé dans l'appartement, on en profite, tout le monde travaille un petit peu pendant la journée. Moi, probablement le moins, parce que je suis un petit peu en mode vacances plus que les autres. Mais du coup, on en profite aussi pour aller sortir, déjeuner, dîner ensemble. Et c'est des bons moments d'échange avec des gens de la communauté. Donc, c'est une très bonne expérience. Et puis, c'est aussi sympa de découvrir la ville et de voyager un peu.
Salut, on est vendredi. On arrive à la fin de la première semaine. Alors, désolé, hein, je suis dans la rue, c'est probablement très bruyant. Je dois dire que on habite à la fois dans un quartier très bruyant et en même temps je pense que la Grèce, enfin Athènes en tout cas de manière générale est assez bruyante. Mais voilà, alors, tiens, je profite là un petit peu de. Je vais m'arrêter, tiens, au milieu d'une rue. C'est vraiment très très sympa. On est dans le quartier de Keramikos. Et alors, au-delà du fait que ça soit très bruyant, par contre c'est un quartier très sympa, un petit peu alternatif. Voilà, on a pris nos petites habitudes. J'ai pas fait beaucoup de mémos vocaux parce qu'à vrai dire, il n'y a pas grand chose à raconter. Voilà, hein, la No Code House, c'est aussi des semaines un petit peu calmes. On travaille la journée un petit peu chacun de notre côté. On déjeune ensemble. Ouais, vraiment beaucoup de bruit, donc je pense que ça va être un peu. J'essaie d'aller me réfugier un petit peu quelque part, je vais me déplacer.
parce que sinon ça va pas avoir de sens. Si vous m'entendez même pas, ça va être complètement nul. Voilà, je vais rapprocher un petit peu mon micro aussi. Il y a un camion qui me rattrape. Voilà, je sens que je trouve un endroit un petit peu plus calme. Oui, donc la no-code house, c'est aussi du travail, hein, c'est assez studieux la journée. On prend nos pauses ensemble, on déjeune ensemble, toujours évidemment. On déjeune. Alors des fois, on mange à la maison, on essaye, hein, mais c'est vrai qu'ici, c'est assez tentant de manger dehors, parce que déjà, c'est pas trop cher, il faut se le dire. C'est très bon, et puis c'est très sympa, en fait, nous, autour de chez nous, il y a plein de petits cafés, de petits restaurants, en fait, où on prend plein de choses, qu'on partage. On mange vraiment très très bien. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que je passe mon temps à poster des photos de bouffe et d'alcool. Alors il y a beaucoup de vent aussi depuis quelques jours. Alors ça va pas aider non plus à l'enregistrement. Je viens de trouver un petit parc par hasard qui est très mignon. Voilà, je me balade en fait tous les matins. Je fais un petit tour pour essayer de vraiment un peu quadriller notre quartier et puis découvrir un peu des coins. On a la chance qu'il fasse très très beau, donc c'est très agréable en fait de commencer la journée comme ça. Et puis je profite un petit peu aussi de l'heure de décalage finalement qu'il y a, puisque là par exemple il est 10h et j'ai mon premier rendez-vous, ma réunion de 9h30 du vendredi, tous les vendredis avec Erwan, on fait un point. Et du coup ici c'est que à 10h30, donc c'est assez pratique, on a décalé un petit peu nos habitudes. Donc on dort bien, on se lève, moi je fais ma petite promenade, un petit thé, et puis on commence notre journée. Donc voilà, moi j'aime bien me lever tôt, mais là je dois dire que c'est assez agréable du fait d'être à l'étranger, d'un petit peu décaler, un petit peu profiter. On se couche un petit peu plus tard aussi, vous l'imaginez, d'une part parce qu'on fait les lives qui commencent assez tard à cause de l'heure de décalage, et puis aussi parce que voilà, on boit des verres, on sort pas mal, on discute, on refait le monde du no-code, tous les quatre, un petit peu tous les soirs, et ça va être pareil un petit peu avec tous nos invités. Voilà, allez, il faut que j'y aille quand même parce que ma réunion quand même approche en fait. Bon, j'écris et puis j'ai peur que vraiment le son soit un peu insupportable. Donc on verra. Allez, à très bientôt.
Mais moi je suis Muriel, j'ai 51 ans. Et je me suis lancé dans le no-code, ça fait maintenant presque 2 ans au final, puisque c'était octobre 2020. Et venant de la tech, j'ai switché 100% no-code depuis décembre 2021. Alors j'habite dans les Hautes-Alpes, un département qui est un peu retiré par rapport, on va dire, à la tech, ce qui est un peu dérangeant pour moi. Mais par contre, j'ai le côté, on va dire, sympa avec les montagnes et tout. Donc ça, c'est cool. Et je travaille depuis début mars 2022 chez Otto, où je suis formatrice et je m'occupe principalement des bootcamps Bubble. Le no-code, j'ai découvert en fait août 2020, en plein confinement. J'écoutais déjà pas mal tout ce qui était en parallèle, on va dire, avec la tech, avec le développement web, puisque c'est ma reconversion que j'ai faite tardivement. Mais de fil en aiguille, fin d'année, j'ai mis que quelques mois pour retrouver No-Code France, en fait, parce que c'était aussi un peu, on va dire, la grande explosion pendant le confinement. Et du coup, j'ai trouvé rapidement le Slack, et puis avec contournement, avec les acteurs, on va dire, principaux de la communauté No-Code France. Le bootcamp de chez Otto, je cherchais un outil qui soit le plus complet, qui réponde rapidement à mes besoins. Donc, en faisant mes recherches, je suis rapidement parti sur du Bubble, puisqu'il y a de la base de données, il y a des workflows et du design, donc c'était tout intégré. Après, est-ce que je resterai 100% Bubble, je ne sais pas, mais pour le moment... Voilà. J'aime bien l'écosystème qu'il y a, même si, on va dire, le design de la plateforme est un peu, on va dire, vieillissante par rapport à d'autres qui ont un design quand même plus sympa, quoi. Bubble, on peut faire une application complète, ça c'est sûr. Après, je trouve que si on reste dans l'écosystème Bubble, ben, on fait que du Bubble. Et moi, j'ai bien aimé Make, qui permet du coup de vraiment connecter beaucoup d'applications no code ou pas d'ailleurs. Et du coup, grâce aux API, je trouve que c'est un super outil parce qu'on peut quasi réaliser tout ce qu'on a besoin comme interconnexion quand même. Moi, j'aime bien Make parce que le peu que j'ai utilisé de Zapier, je me suis trouvé enfermé en fait avec Zapier. Tandis qu'avec Make, on retrouve directement les... On peut itérer dessus, on peut faire des sélections en fait et en fonction de ce qu'on a besoin de faire et des résultats de notre requête. Et du coup, ouais, ça correspond plus aux besoins que j'ai besoin de faire en fait. J'ai pas envie d'être assisté 100%, mais j'ai cette liberté j'apprécie cette liberté par rapport à Zapier en fait, qui où il y a quand même moins de liberté quoi. Donc déjà un grand merci pour le choix d'Athènes et un grand merci pour avoir organisé ça. Parce que mine de rien, même si vous passez un mois avec nous, c'est quand même de l'organisation. Moi, je kiffe en fait tout ce qui est coworking, co-living. Alors coworking, moi, je ne peux pas trop faire dans mon département. J'avais déjà fait du co-living avec des bubbleurs au mois de juin l'an dernier. Du coup, j'avais bien kiffé. J'avais été super déçu de ne pas pouvoir venir à Lisbonne l'an dernier. Pas l'an dernier, c'était au mois de mai d'ailleurs. Donc déçu de ne pas être venu à Lisbonne. Mais du coup, franchement contente d'avoir vécu l'aventure avec vous. J'ai découvert Stan, c'était la première fois que je le voyais, puisque toi, on te voit de temps en temps à Marseille. Mais du coup, Stan, c'était la première fois. Et puis, ben, Georges, je ne connaissais pas du tout, donc ça m'a permis aussi de le découvrir. Adrien, ça fait un petit moment qu'on se connaît virtuellement, donc pouvoir le rencontrer en vrai, c'était aussi cool, quoi. Donc franchement, moi, je kiffe le côté co-living et vivre en immersion tous ensemble pendant une durée, voilà, ça j'aime bien.
Allez, c'est lundi et j'attaque un peu troisième peut-être, je me souviens même plus d'ailleurs combien j'en ai enregistré. J'en ai pas enregistré beaucoup, pas du tout autant que ce que je pensais, pour différentes raisons. D'abord, j'ai eu ma voix qui était un petit peu complètement cassé les premiers jours. Et puis après, voilà, on est dans le moment. Malgré que j'ai toujours sur moi mon téléphone et mon micro-cravate, c'est vrai que j'ai un peu du mal à le sortir quand on est tous ensemble. Voilà, donc bah, écoutez, vous avez les lives pour découvrir aussi un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder les replays sur la chaîne YouTube de Contournement. Pas de Contournement, d'ailleurs, de No Code France. J'ai tellement l'habitude de dire bienvenue, c'est Alexis, bienvenue sur la chaîne de Contournement, que je suis un peu formaté, mais non, c'est sur la chaîne de No Code France que vous retrouvez les replays. Et voilà, et moi je me balade, j'ai enfin trouvé un petit peu là dans notre quartier une rue un peu moins bruyante, petite rue, enfin pas une rue, mais une voie piétonne pour les cyclistes, etc., qui longe une voie ferrée. Alors ça se trouve, s'il y a un train qui passe, ça va faire du bruit, mais sinon c'est assez agréable. Il fait un temps magnifique à Athènes, si vous avez l'occasion de venir à Athènes au mois d'octobre, c'est vraiment splendide. Hier on était à la plage d'ailleurs, même vraiment pour vous dire. Hein, donc voilà, on ne s'est pas baigné, j'ai pas pris de maillot en fait, pour être tout à fait honnête. Et voilà, et on a eu donc une très très belle semaine là, qui s'est achevée. Ah, je vais devoir m'arrêter de faire mon lacet, mais je peux continuer à parler en même temps grâce au micro-cravate. Voilà, donc je fais mon lacet en même temps. Je me suis mis dans une position un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Et donc c'est la fin, donc là on est lundi matin. Début de la deuxième semaine. Donc on a passé une première semaine avec Muriel et Georges, voilà, qui était très très chouette. Bah, regardez les lives, hein, franchement, c'était très intéressant. Vraiment, on a eu beaucoup de discussions. C'était passionnant de voir avec Georges un petit peu sa vision un petit peu vue des États-Unis, du no-code, puis même de la société, enfin, plein de choses. Hein. Enfin, vraiment, vous vous en doutez, hein, mais on ne parle pas de no-code tout le temps. On parle beaucoup de no-code, évidemment. Quand on déjeune, quand on dîne, mais c'est pas que ça, hein, à vrai dire. On confronte un peu nos points de vue, c'est très intéressant, hein, entre voilà, Stan et moi qui sommes parisiens, voilà, qui ont grandi à Paris, Muriel qui vient de Gap, qui est aussi un petit peu plus âgé, et puis Georges qui vit aux États-Unis, même s'il a grandi en France. Voilà, c'est assez, on a des discussions très intéressantes, moi je trouve. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir, bah voilà, dans nos cercles habituels. Donc moi, j'apprécie vraiment ces moments-là. Voilà, et puis cette semaine, on a Adrien et Lambert qui arrivent. Adrien est déjà arrivé, quand je vous parle. Voilà, Adrien, on le connaît. Hein, en tout cas, moi, je le connais un petit peu parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois. Il travaille aussi un petit peu pour Contournement, il fait des formations. Voilà, Lambert, par contre, c'est quelqu'un... Ah, voilà, le fameux train. Voilà, je vois sur mon niveau là que le train a bien explosé les niveaux, donc je suis arrêté de parler. Mais oui, donc Lambert connaît beaucoup moins. C'est un des administrateurs de l'association No Code France, tout comme Adrien d'ailleurs. Donc on va profiter aussi de cette semaine pour travailler un petit peu sur l'association, d'organiser une AG. Voilà, si vous êtes impliqué dans l'association No Code France, vous en saurez un petit peu plus. Et voilà, donc moi j'ai hâte de découvrir plus Lambert. Voilà, ça c'est un des petits plaisirs. C'est la seule personne... Non, Georges était la première personne que j'avais jamais rencontrée, même si Georges a eu aussi l'occasion d'échanger avec lui plusieurs fois. Je l'ai interviewé dans mon podcast. Voilà, mais Lambert, je ne l'ai jamais rencontré. On a très peu, je crois qu'on n'a peut-être jamais échangé en 1-1. Donc voilà, donc ça va être intéressant. Et puis voilà, puis ça fait 4 minutes là que je vous raconte pas grand-chose de très intéressant. Donc pour pas que j'aie à faire trop de montage, je pense que je vais m'arrêter là. J'arrive bientôt en plus à la maison. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette petite capsule, de cette petite transmission.
Bah, je m'appelle Adrien, j'ai 36 ans, je suis freelance. J'ai fait du no-code en tant que freelance et je suis formateur no-code. Ce qui m'a amené au no-code, c'était principalement à l'origine de la gestion de projet. Il fallait que je trouve un outil pour centraliser nos informations et donc je suis tombé sur Notion, qui m'a ensuite amené au webinaire de contournement et donc progressivement sur No Code France et les formations de contournement sur Airtable et Zapier dans la foulée. Aujourd'hui, je mets en place des process, principalement des ops sur des produits, je dirais, orientés métier, principalement sur du customer success. Bah, par exemple, il y avait sur l'organisation de la gestion des étudiants de l'école, ce que je vais mettre en place, en fait, c'est tout un automatisme d'onboarding sur le Slack. Ensuite, je vais, par le biais de Typeform, par exemple, récupérer les feedbacks des étudiants et du coup permettre au customer success de plus envoyer d'emails de relance ou ce genre de choses. Je le fais donc automatiquement via des process, ce qui lui permet de se focus uniquement sur vraiment des questions très spécifiques et pas sur des généralités, je dirais. Quelque part, Make me fascine dans le sens où j'ai l'impression que rien n'est impossible. À partir du moment où on arrive à trouver un moyen de se connecter à l'outil, que ce soit par une intégration native ou via l'API, on se rend compte que, bah, en fait, on peut presque tout faire. En fait, tout ce qui nous prend du temps, tout ce qui est redondant ou pénible ou même chronophage à faire, bah, on arrive à trouver des moyens d'arriver à limiter les erreurs et automatiser certains process. Bah, super arrivé déjà, super accueil de Stan, comme je suis arrivé assez tard dans la nuit de samedi dernier. Et super semaine, sincèrement, je ne m'attendais pas à être aussi studieux, bizarrement. Super énergie, voilà, il y a un vrai moment de... où on est tous en train de bosser, on est tous ensemble, on peut échanger, etc. et partager des choses. Mais en même temps, on est super focus. Et à côté de ça, bah, dès qu'on sort de ce cadre, je dirais, de travail, on continue de parler sur le no-code et d'autres sujets. Et je trouve que les échanges sont assez variés. Et voilà, je trouve ça assez intéressant.
Donc, je suis Lambert Potin, j'ai 33 ans, je suis marié, un enfant, j'habite dans le Loir-et-Cher, une petite ville qui a une carte TGV qui permet d'aller rapidement à Paris. Je ne sais pas si c'est vraiment utile ce genre de choses, mais ça a du sens. Alors actuellement, professionnellement, j'ai cofondé une agence no-code dédiée à la santé, avec on a une partie à la fois conseil et dev no-code, avec deux autres associés. Et voilà, on vient de se lancer et ça marche plutôt bien pour le moment. La santé, c'est un milieu qui est très digitalisé dans le sens où il y a quand même énormément d'applicatifs qui sont utilisés par les professionnels, mais en même temps, on est face à des professionnels qui ne sont pas eux adaptés aux applicatifs qu'ils ont. Donc en fait, c'est assez complexe pour eux. C'est des personnes en plus qui n'ont pas le temps. Ils sont face à des systèmes qui sont super compliqués, où parfois il faut faire énormément de clics pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Donc on a une situation qui est un peu particulière, où même le ministère de la Santé pousse à ce qu'on utilise de plus en plus de logiciels, mais en même temps on est face à une population qui n'a pas le temps, qui n'est pas forcément bien formée, et donc qui galère avec. Donc c'est là où le no-code peut entrer en jeu, en apportant finalement le côté personnalisation. C'est-à-dire que plutôt qu'on ait un logiciel finalement généraliste, qui sera du coup pas adapté à une prise en charge spécifique, à un service ou à un médecin, eh ben, nous du coup derrière on peut le faire, on peut amener en no-code des solutions complètement personnalisées. C'est quand même un des plus grands cas d'usage du no-code finalement, et ça permet aussi de combler un peu les manques. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'applicatifs dans la santé, mais ils vont s'intéresser beaucoup aux grands domaines, et il y a parfois des zones où il y a justement rien, il y a une absence en fait de réponse des éditeurs à des besoins. Et c'est là où justement nous on peut intervenir, parce que du coup ça n'a pas le même coût, ça prend pas le même temps, et surtout on peut faire des jeux d'essais-erreurs, et de recommencer, de reprendre des choses, etc. Donc c'est pour ça que le no-code est parfaitement adapté à ce milieu-là. Comment est-ce que j'ai découvert la communauté No-Code France ? Ça me fait remonter un peu loin. Ça provenait du fait que j'avais quelques idées que je voulais lancer, des idées de SaaS. Et bon, toujours le problème de trouver un développeur, etc. Moi, je ne suis pas développeur à la base. Donc, je commençais à essayer de chercher, de savoir comment est-ce que je pouvais recruter un CTO. Et en même temps, je discute avec un ami qui me dit tu pourrais essayer d'utiliser du no-code pour prototyper. Alors, c'est là où c'était intéressant. C'est pas une personne qui est dans le no-code, mais il en avait entendu parler. Il disait comme ça, tu peux faire des maquettes. Et après, tu peux la présenter à un CTO. Qui lui, du coup, il comprendra, il pourra le faire. Donc ça, on était vraiment dans le prototypage. Je me suis dit, c'est super intéressant. Puis j'en avais déjà entendu parler. J'avais une présentation chez un employeur. Il y avait des personnes qui en avaient parlé. Et du coup, je me disais, il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, en fait, je me suis rendu compte que le no-code, c'était pas juste du prototype. Le no-code, c'est la vie. En tout cas, moi, mes cas d'usage, ils étaient complètement faisables en no-code. Donc ça, il n'y avait aucun souci. Du coup, j'ai fait un bootcamp Bubble via directement Bubble, parce que je connaissais pas grand monde, etc. Donc je l'ai fait de ce côté-là, et la personne, en fait, m'a parlé, la personne qui faisait le bootcamp m'a parlé de la communauté no-code France. Il n'est pas dans cette communauté, mais il en a parlé quand même. Et du coup, j'ai découvert le site, je suis allé voir sur le Slack, et là, c'est vrai que j'ai ouvert une porte, en fait, et j'ai trouvé vraiment beaucoup d'intérêt à la fois le fait, les outils, le principe du no-code, mais aussi toute sa philosophie derrière, ce côté entraide qu'on avait dans la commu. C'est-à-dire que j'ai jamais fait vraiment partie d'une communauté, à proprement parler, et en fait là, je veux dire, c'est un beau, c'est une belle entrée en matière, parce qu'on a vraiment une énorme bienveillance. C'est très rare que les questions restent sans réponse, et même si on n'a pas de réponse, on va quand même essayer d'orienter. Et ça, en fait, c'est franchement fort, et c'est ça qui a fait que j'y suis autant et que j'ai toujours envie de m'y engager. Un outil particulièrement remarquable. Le problème, c'est qu'en fait, ils défilent dans ma tête. Ils sont tous très très forts. Je ferai peut-être une mention à Coda quand même. Parce qu'il vient mixer à la fois le côté productivité, les outils de productivité style Notion avec un vrai back-end comme Airtable. Et en fait, ça, je trouve ça assez fort. Parce que ça veut dire que finalement, de manière extrêmement rapide, on peut arriver à créer quelque chose qui soit utilisable et quelque chose qui soit à la fois productif, style des pages dans Notion, etc. Et un côté back-end qui est quand même assez puissant. Ma semaine à Athènes dans la No-Code House, ça a été assez intéressant comme expérience. Déjà, moi, j'adore Athènes, j'adore cette ville, j'adore la Grèce. Je suis passionné par l'histoire de ce pays. Donc déjà, je partais sur un très bon a priori. Il y a en plus des personnes avec qui j'ai eu la chance d'échanger, alors pas en réel, mais via le Slack ou via téléphone, etc. Donc ça, déjà aussi, ça s'annonçait bien. Ça a été une semaine assez studieuse, parce qu'on avait quand même pas mal de boulot, je crois, tous. Et en même temps, une belle détente quand même, parce que le fait d'aller au resto grec, si jamais vous cherchez une destination, allez en Grèce, hein, c'est très sympa, et aller dans les petits restos grecs, c'est vraiment très très sympa. Et donc voilà, c'est vrai que ça permet de sortir un petit peu de ce qu'on peut avoir au quotidien, et c'était vraiment, vraiment très agréable.
Allez, je tente un petit enregistrement je viens d'aller courir, donc j'ai pas mon micro-cravate que j'utilise habituellement. Je sais pas ce que ça va donner. Au moins là, je suis à peu près au calme. Je viens d'aller courir, donc je suis un peu essoufflé. Comme ça, ça vous rappellera comme ça l'épisode à Lisbonne où clairement j'étais tout le temps essoufflé à cause des collines. Ça. Voilà, c'est le matin. Il fait hyper beau à Athènes. On est au milieu de la deuxième semaine. Ah, il y a quelqu'un qui fait de la... Il y a des travaux un peu partout à Athènes, il faut savoir. Il y a beaucoup d'immeubles abandonnés, il y a beaucoup de... C'est assez étrange. C'est en même temps très vert. Moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, qui me rappelle un peu Marseille par ses côtés méditerranéens, et comme ça aussi un petit peu sale, il faut le dire, hein, mais aussi un peu... voilà, un peu intéressant. Il y a des très beaux vieux immeubles mal entretenus. On voit un peu une espèce de grandeur un peu décadente. Et puis cette acropole qu'on voit de partout. On a dîné hier soir à côté, c'était hyper agréable. On avait la vue sur l'acropole, alors il faut se dire que j'ai vu la vue depuis mon lit. Stan et moi-même, depuis nos chambres, on voit l'acropole la nuit, c'est absolument somptueux. C'est vraiment... voilà, ça domine, c'est une colline qui domine la ville. Donc voilà, c'est extrêmement, extrêmement sympa. Par contre, c'est très très pollué, pour courir, c'est un peu pénible. J'ai enfin trouvé un chemin un petit peu à l'écart des voitures, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de routes, beaucoup de voitures autour de là où on habite. Donc ça, c'est un peu difficile, vous l'avez entendu déjà dans des petits extraits précédents. Et voilà, et donc le matin, en fait, on se lève un peu tous à des heures différentes, c'est assez rigolo. On se croise très peu, là je me suis levé, enfin c'est un peu ça tous les matins. On arrive, comme chacun un peu son rythme. Par exemple, cette semaine, Lambert et Adrien se lèvent en général un peu plus tôt que moi. Moi, je me lève généralement plus tôt que Stan, et c'est rigolo. Voilà, on voit aussi Lambert et Adrien sont tous les deux papas, donc je pense que ça doit y jouer forcément. Voilà, mais donc en fait on se croise jamais, il n'y a jamais l'embouteillage dans la salle de bain et tout, c'est assez drôle. Là je les ai même pas croisés, j'ai vu quelqu'un rentrer dans la salle de bain, je sais même pas si c'était Lambert ou Adrien. Voilà, moi je suis parti faire ma course. On est allé se balader dans le centre hier soir. C'était assez touristique, je dois dire. C'était bien de l'avoir vu, même si moi je l'avais vu déjà quand j'étais venu il y a 5 ans. Mais voilà, on a fait un petit tour un petit peu plus dans les quartiers touristiques, qui étaient plein de touristes, plein de Grecs aussi. Voilà, avec des choses un petit peu moins intéressantes, je trouve, que là où on habite. Mais bon, c'est bien à voir aussi. Il faut explorer toute la ville. On a bien quadrillé notre secteur. Mais voilà, moi j'ai envie quand même de profiter de ce mois pour pouvoir tout voir au final. À bientôt pour le prochain épisode.
Alors, je m'appelle Lorraine, j'ai 25 ans. Je suis... En fait, le no-code, c'est pas mon métier fondamentalement. Je suis... Head of Customer Success chez Granit. Donc, mon métier, c'est de gérer la relation client dans notre startup. On fait un logiciel pour le BTP. Et par contre, dans cette startup, je fais beaucoup de no-code pour automatiser tous nos process en interne, pour créer des petites extensions à destination de nos clients. Alors, le métier de Customer Success, je dirais pas que je l'ai choisi. Ça s'est fait un peu par hasard et j'en suis très heureuse parce que j'adore mon boulot. Mais... en gros, j'ai toujours eu la fibre un peu informatique. Je ne suis pas développeuse, mais j'aimais bien toucher un peu à du code, etc. Et j'ai découvert le no-code de manière un peu détournée à l'occasion de mon stage, d'un stage que j'ai fait quand j'étais à l'école. Mais c'était dans un cadre à la SNCF qui était plutôt du coup très en retard d'un point de vue digital. Donc c'était pas encore vraiment du no-code, mais j'ai à cette occasion-là découvert quand même qu'il y avait des outils que tu pouvais assembler... créer des logiques d'automatisation. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai été recrutée chez Granit derrière. En gros, quand je suis arrivée chez Granit, mon job, il était un peu horrible. Je faisais des copier-coller toute la journée. Mais le deal, c'était un peu, voici ce que tu as à faire. Le job, il est chiant. Et fais en sorte que son job, il soit plus chiant, quoi. C'est un peu le but. Et donc, c'est comme ça que vraiment, je me suis mise au no-code, en fait, par nécessité. Parce que... parce que je faisais plein de choses manuelles qui n'avaient pas de valeur ajoutée et que on est passé de 3 à 30 à 100 clients et qu'il a fallu rationaliser un peu les process. L'outil le plus remarquable à mes yeux, alors c'est encore dur à dire parce que je ne le connais pas encore très bien, mais c'est Glide, parce qu'ils ont cette proposition de valeur de no code, no logic. No code, no design. Et no code, no design, moi, ça m'intéresse parce que y a des outils qui permettent d'aller très très loin dans la personnalisation des interfaces, mais du coup, je trouve que parfois, ça s'éloigne presque de la logique du no-code qui, où le but, c'est de faire les choses vite et bien et de créer des outils métiers rapidement. Et je trouve que Glide est assez remarquable pour ça, pour la rapidité de mise en place de l'interface en elle-même. J'utilise énormément Make et Airtable aussi au quotidien, et également Notion, qu'on n'utilise pas forcément comme un outil no-code, mais plutôt comme base de connaissances. Et c'est déjà pas mal. Pourquoi je suis venue ? Parce que ça avait l'air fun. Parce que je trouve que comme fondamentalement le no-code, c'est pas mon cœur de métier, j'en fais beaucoup dans mon boulot, mais ça peut être parfois un peu solitaire ou je peux être parfois frustrée de pas pouvoir faire du no-code à plein temps, plusieurs jours d'affilée. Donc au final, ça me fait des vacances no-code. Vraiment, moi, je trouve ça sympa de pouvoir faire du no-code à fond pendant quelques jours. De me retrouver avec d'autres passionnés aussi, de partager un peu les expériences de chacun, rentrer un peu dans le... comment dire... voir un peu l'arrière du décor aussi, de comment vous faites les live Twitch, comment ça se passe la No Code House. Donc pour toutes ces raisons-là, j'avais très envie de venir en Grèce et voir de mes propres yeux. Ouais, je suis hyper contente. Athènes, c'est très sympa. L'ambiance à la No Code House, c'est détendu, mais assez sérieux aussi, donc ça permet quand même vraiment d'aller se concentrer sur des projets et ensuite d'aller s'entraider, d'aller s'intéresser à ce que font les autres. Je trouve que le curseur est bien placé entre le fait que tout le monde est là fondamentalement quand même pour bosser, faire du no-code, mais aussi on est là pour partager des bons moments ensemble. Les soirées sont très sympas aussi. Et ouais, non, je suis vraiment très contente d'être venue.
On est dimanche matin, je me promène à... sous un soleil, sous un temps assez mitigé. On a fait une soirée assez calme hier parce que la soirée de vendredi a été encore une fois un petit peu animée. Voilà. Nous a pas suivi on a accueilli Joyce qui est arrivée hier. Petit repas, on emmène les gens toujours dans le même resto en fait quand ils arrivent. On a trouvé un resto grec assez chouette pas très loin de chez nous. Notre petit rituel d'accueil pour qu'ils dégustent plein de spécialités. Franchement, la bouffe ici est vraiment délicieuse, je l'ai déjà dit, je crois. Beaucoup de... c'est plus de tradition, un petit peu comme en Espagne, de tapas. On commande plusieurs choses et puis on partage. Donc voilà, c'était très bien. Et puis aujourd'hui, c'est dimanche, on va aller faire une petite promenade, je pense. Moi, j'ai toujours ma petite promenade rituelle du matin, mais... On va faire une plus grande exploration. La semaine dernière, on était parti en dehors de la ville, on était allé à la plage. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien monter le mont Lycabette, qui est une petite montagne, une colline, je sais pas comment on dit. Là, sur lequel il y a un monastère en haut, une église, c'est pas pareil. Ça fait une belle randonnée. C'est le quartier de l'Exarchia, qui est un quartier aussi assez intéressant, assez alternatif. C'est marrant parce que je me rends compte que, en fait, on est dans un podcast sur le no-code, mais finalement, c'est plus un guide touristique finalement que je fais là. Mais bon, je me dis que c'est l'occasion. Et puis évidemment, de toute façon, ça va parler de no-code dans toutes les petites interviews, les petites séquences que j'ai fait avec les invités. Mais voilà, moi, quand je parle, cela dit, on parle quand même beaucoup de no-code, on confronte des idées. C'est très intéressant, mais comme on fait du no-code tous toute la journée, franchement, le soir aussi, on aime bien parler un peu d'autre chose, vous en doutez. Voilà, donc c'est un mix des deux, mais vous verrez un petit peu ce que chacun des invités de la No Code House en retire. Vous verrez que c'est assez intéressant. J'arrive bientôt chez moi, donc il est temps de vous laisser. C'était une petite capsule, et puis demain je ferai
petit peu le débrief de la semaine, je sais pas trop d'ailleurs. Allez, à plus.
Bah, je m'appelle Joyce, je suis franco-américaine, j'ai 38 ans, j'aime le sport et la musique et le no-code. Et je bosse chez WeWeb, accessoirement. Là-bas, je fais beaucoup de marketing, donc j'ai été embauchée comme Product Marketing Manager. Je m'occupe du changelog. Pendant un long moment, je me suis occupée de la documentation utilisateur. Là, on bascule un peu côté produit. Et globalement, je m'occupe de contenu, quoi. J'aime beaucoup le contenu, surtout le contenu éducationnel. Et je m'occupe de plus en plus de l'acquisition, de trouver d'augmenter le trafic sur le site et le taux de sign-up aussi, le taux de conversion. Alors WeWeb, c'est ce qu'on appelle un front-end builder, et il y a grand débat en interne sur si on appelle ça un front-end builder ou un builder d'interface utilisateur. Donc les devs pensent que ça parle plus aux gens de dire front-end builder. Moi, côté market, j'ai l'impression que ça embrouille les gens, mais je suis pas sûre que UI builder ça aide non plus. Donc en gros, ça te permet de connecter, de faire toute la partie interface et de connecter à n'importe quelle base de données ou système d'authentification pour créer des web apps complètes. Et du coup, nous, on s'occupe que de, enfin, WeWeb s'occupe que de la partie front et logique dans le front des web apps. Ma première interaction avec le no-code, je dirais que c'est quand je me suis mise à mon compte il y a quelques années, où j'ai créé un site WordPress avec Elementor, en drag and drop. Je pense que c'est un peu... voilà, il peut y avoir débat sur si c'est du no-code ou pas, mais je pense que oui. Je l'ai fait sans coder, ça m'a permis... Bah, finalement, en fait, on met du custom HTML, on met du custom CSS, parce qu'on se retrouve vite bloqué par les templates. Donc c'était aussi une intro au code, je pense, pour moi. Enfin... Ça m'a permis en tout cas de comprendre comment le HTML et le CSS fonctionnent. Ça m'a donné envie après de comprendre le JS. Je comprends toujours pas le JS, mais en tout cas, c'est... Enfin ouais, je trouve que les templates un peu foireux de WordPress m'ont donné une bonne intro au code et au no-code. Ben en fait, la première chose qui m'est venue quand tu as dit outil remarquable, c'est Google Sheets. Et je sais pas si c'est considéré comme un outil no-code... En fait, moi, mon background, il est vraiment de Big Four audit. Donc, je travaillais sur Excel beaucoup avec des formules. Et en fait, c'est les formules et les tableaux croisés dynamiques et enfin les vertical lookup que je, enfin voilà, j'ai pu traiter des données assez hallucinantes dans Excel. Et je trouve que Google Sheets, de le mettre dans le navigateur, c'est un peu dingue, quoi, de réussir à faire ça. Et c'est un peu je pense, le précurseur d'Airtable, quoi, qui va bien plus loin par plein d'aspects et qui... Enfin voilà, ma réponse du coup, si on est dans le pur no-code, je pense que je dirais que c'est Airtable, même si je connais... En fait, je maîtrise mieux un Google Sheets qu'un Airtable, mais je me rends aussi compte que Airtable permet des choses encore plus dingues, quoi. Ouais, très bonne semaine. C'était très très chouette, Athènes. On mange extrêmement bien, ça je pense aussi que ça peut être récurrent dans les différents témoignages. On mange très bien, on dort un tout petit peu moins bien parce qu'il y a du bruit et comme on mange bien aussi, mais d'habitude je mange pas aussi, autant le soir, donc je pense que ça perturbe un peu mon sommeil, mais non, très chouette et ouais, c'est toujours un plaisir. Je trouve que c'est No Code House, c'est vraiment une belle idée, j'espère que ça sera pérenne.
Donc c'est le début de la saison, de la semaine numéro 3. Voilà, en fait on est mardi, j'ai complètement oublié de faire le petit live audio, enfin le petit enregistrement audio que j'aime bien faire le lundi un petit peu pour démarrer la semaine. Donc on a passé, la semaine dernière était vraiment super. Voilà, donc avec Lambert, Adrien et puis... Lorraine en guest. Voilà, donc une semaine très, j'ai envie de dire quelque part, très orientée maker. Et voilà, donc moi ça a été super, j'ai eu l'occasion de pas mal parler du cercle des Ops avec Adrien et Lorraine notamment. Là, je suis encore en mode Lisbonne, là, je sais pas pourquoi j'ai lancé l'enregistrement juste avant d'attaquer une côte. Donc voilà, je vais un petit peu halter quelques premières minutes, mais c'est très très beau en fait. On est. Un peu, on habite pas très loin du bas de l'Acropole et d'un parc qui s'appelle le parc ou la colline Philippe Apou, un truc comme ça, Philippe Apou. Et voilà, j'aime bien aller m'y promener. Il fait très moche ce matin, mais c'est pas grave. Ouh, putain, je viens de me réveiller. Je, tous les matins, je commence par une petite promenade. Mais voilà, donc là, c'est un petit peu dur, cette petite montée. Je pense que je vais redescendre tout de suite, d'ailleurs. Voilà, donc là, la deuxième semaine, c'est terminé. On attaque la troisième. On a Joyce qui nous a rejoint pendant le week-end. On a Quentin qui est arrivé hier soir. Donc voilà, c'est une semaine un petit peu placée sous le site de WeWeb. Je sais pas si je vais couper tout ça ou si ça va faire juste très bizarre. Je sais pas si d'un coup, je perds du bon souffle. Donc voilà, une semaine placée sous le site de WeWeb. C'est très intéressant parce que, donc, comme je disais, peut-être la semaine dernière était un peu plus placée sous un peu des discussions de makers. Et puis là, quand on discute avec Quentin et Joyce, c'est hyper intéressant parce que on parle beaucoup de qu'est-ce que c'est de faire un outil no-code, quelles sont les difficultés, les challenges, les succès. On discute. Hier, on parlait par exemple d'acquisition. C'est très intéressant de comprendre les problématiques. Nous, on a l'impression, on pense certaines choses un peu quand on se place de notre côté, quoi, du côté des no-codeurs, des no-codeuses, alors que face à des questions complètement différentes, on a des appréhensions, on pense tu vois, qu'il faudrait faire les choses d'une certaine manière, on a une autre vision, on confronte les points de vue, c'est hyper intéressant. Voilà, moi ça m'apporte beaucoup dans ma compréhension, on va dire un petit peu globale, du no-code game, de cet écosystème. Peut-être que eux, ça leur apporte un petit peu aussi de parler avec des gens qui sont de l'autre côté de la barrière. Voilà, sachant que bon, je ne suis pas spécialement un utilisateur de WeWeb en plus, ce que je regrette un peu parce que je trouve que c'est un outil extrêmement intéressant. Voilà, mais qui ne correspond pas forcément à mes besoins. Voilà, mais bon, il y a sûrement un jour qui viendra où je me remettrai dessus. Voilà, donc c'est ça. Et puis on a un autre invité qui arrive dans la semaine, qui est un peu décalé. J'ai un chien qui vient vers moi. Il est tout petit, pas l'air très méchant. Qui est Alexandre Talon, qui nous rejoint et devait venir la semaine prochaine. Il a un peu décalé son billet, donc voilà, on va être pendant un petit moment un peu 5 dans la maison. Ce sera un petit peu serré, mais bon, on verra ce que ça donne. Je suis sûr que pour la connexion internet, ça ne va pas le faire. Par contre, ça, c'est un petit peu problématique. C'est vraiment un des points noirs de cette deuxième Code House. Je pense qu'on devra prendre des précautions vraiment supplémentaires pour avoir des bonnes connexions. Alors bon, on fait du coup, on est en mode 4G, on se débrouille, on fait comme on peut. Mais ouais, c'est vraiment un problème. Voilà, je sais pas pourquoi, on n'entend pas très fort, j'ai l'impression, le son aujourd'hui. Bon, ouais, écoutez, vous me direz, on verra bien de toute façon ce que ça donne. Et puis voilà, écoutez, y a un live demain soir. Je le dis, de toute façon, ça ne change rien, parce que quand au moment où vous allez écouter ça, tout ça sera passé, mais on va faire un live donc avec Quentin et Joyce. Ce sera un petit peu différent, puisqu'ils ont eu l'occasion déjà de raconter un petit peu leur vie lors de la No-Code House à Lisbonne. Voilà, mais là, je pense qu'on va en profiter pour parler de web, pour parler de No-Code en général. Ça devrait être un bon moment aussi, parce que les gens aussi du chat les connaissent bien, de la communauté. Voilà, c'est un petit peu, on va essayer de faire un truc un petit peu sympa. Et puis voilà, écoutez, je vous retrouverai pour un autre enregistrement un petit peu plus tard dans la semaine.
Bon, moi, c'est Quentin, DQ, pour les intimes. Je m'occupe du marketing chez WeWeb, une boîte dans le no-code. Et voilà, globalement, marketing un peu de produit aussi. En travaillant dans une boîte dans le no-code, ça aide. Sinon, en vrai, j'en faisais depuis longtemps parce que je faisais du growth avant dans une autre startup. J'étais un peu le couteau suisse de la boîte à devoir envoyer des informations d'un point A à un point B en interne ou même en externe. Et j'utilisais beaucoup de scripts que je faisais moi-même en Python, donc en programmant. Mais j'ai beaucoup utilisé très vite du Zapier et d'autres outils. Très vite Google Spreadsheet avec l'API, Airtable et compagnie. Et du coup, je faisais du no-code, mais ça s'appelait pas encore no-code, j'en avais pas conscience. Et c'était mélangé pas mal avec du code. Mais ouais, beaucoup pour tout ce qui est ops en interne. Ouais. Un outil no-code que je trouve remarquable... oui, mais... Pourquoi je le trouve remarquable En vrai, bon, j'en ai deux, mais c'est peut-être les deux que j'utilisais le plus à une époque. Il y a Zapier et Airtable, même si j'utilise de moins en moins Zapier parce que, bon, comme beaucoup de personnes dans la communauté, on est passé sur Make, voire autre. Mais c'était cet aspect où ils ont compris que le futur de la tech du moins, ou même de, des entreprises en général, ça allait être de faire communiquer des API entre elles. Et le fait qu'ils aient réussi à lancer cette boîte, c'est parce qu'il y a plus de 10 ans maintenant, c'était ouf pour l'époque. Et en vrai, ça permet tellement de choses, c'est assez hallucinant. Et Airtable, parce que pareil, c'est comment rendre utilisable pour tout le monde une base SQL, et tout le monde a besoin de base SQL, on s'en rend pas compte, mais on l'utilise tout le temps, que ce soit dans Excel et autres. Et le produit est tellement bien fait aussi au niveau ergonomie, au niveau de l'API, au niveau de ce qu'on peut y faire. Enfin, ces deux outils, je trouve, c'était des précurseurs et ils ont fait ça bien. Ouais. C'est très bien passé. Très bon séjour. J'ai découvert pas mal de choses. Et je remercie l'équipe pour ça. Et plus compliqué là ces derniers jours, parce que je ne dors pas assez. Très bonne nourriture. Venez à Athènes manger des choses. C'est le meilleur truc qu'il y a ici, c'est la bouffe.
Eh bien, on est dimanche, il fait comme toujours très beau à Athènes. On a franchement un mois exceptionnel, ça doit être assez relou d'ailleurs quand je le dis à chaque fois, pour peu en plus que vous écoutez ça cet hiver quand il fera moche et tout. Mais ouais, moi je fais le plein de soleil là pour affronter l'hiver parisien. Voilà, on est dimanche, moi je suis pas sorti hier soir, donc je me suis levé tôt et je vais aller au musée de l'Acropole. Voilà, on a passé une excellente semaine, on a eu donc Joyce et Quentin qui étaient là toute la semaine. Joyce est parti hier soir, Quentin part tout à l'heure. On a Alexandre Talon qui nous a rejoint. Voilà, et puis on a même Lilian qui nous a rejoint aussi. Lilian, c'est Voumian qui était aussi dans la première de Code House à Lisbonne. Donc voilà, donc hier soir, enfin avant-hier soir, vendredi en fait, on a une jolie soirée à 6. Voilà, c'était vraiment le plus que la No Code House a jamais connu, 6 personnes. Donc c'était assez chouette, évidemment beaucoup de discussions, des points de vue très animés sur plein de sujets, beaucoup de no-code, en plus c'est intéressant parce qu'on a donc Joyce et Quentin qui travaillent chez un éditeur, WeWeb, on a Alexandre Talon qui gère une petite agence no-code, et puis on a Lilian qui a été longtemps freelance et qui est maintenant, qui fait des no-code ops chez JellySmack. Donc voilà, plein de points de vue, vraiment des discussions super riches, on a bien rigolé, ça s'est fini tard, on a bu un petit peu. Voilà, avec modération hein, évidemment, enfin, ça dépend pour qui. Et voilà, et donc ensuite hier, très belle journée, un peu chill, forcément vous imaginez, on s'est levé tard. Moi j'ai pas remis ça hier soir, et voilà, je suis bien content parce que là franchement, dimanche matin à Athènes, ah là je vois des gens qui sont en after je pense. on habite dans un quartier où il y a énormément de boîtes de nuit. Ah c'est drôle, j'avais pas. En fait, bon, il est pas très tôt, il est 9h, mais je vois quand même pas mal de gens là, sur la petite place qui, je pense, ne se sont pas encore couchés d'hier soir. Voilà, et ça, bon, bah, voilà, toujours hein, c'est le décalage un peu classique. Voilà, moi je me suis couché relativement tôt. Je suis en pleine forme, et donc je vais aller voir ce musée de l'Acropole qui paraît est assez splendide. Déjà le bâtiment est très très beau. Donc voilà. Voilà, un petit peu de tourisme, hein, c'est important aussi quand même découvrir la ville, on passe un mois quelque part, on s'est beaucoup promené, j'ai fait le musée archéologique aussi avec Adrien la deuxième semaine, qui était assez chouette, qui était pas non plus si, il est assez mal je trouve indiqué, la partie un peu explication etc, extraordinaire, voilà, mais on va voir, j'ai beaucoup d'attente on va dire sur le musée de l'Acropole et j'ai fait un truc auquel j'avais jamais pensé avant, c'est que j'ai téléchargé un audio guide sur mon téléphone, voilà, donc ça je trouve ça rigolo, j'avais jamais pensé en fait à ça à vrai dire, moi je suis un peu un voyageur, je prépare beaucoup mes voyages mais pas beaucoup par contre la partie tourisme etc, et voilà, et en parlant hier avec Lilian il y a cette idée qui a surgi. Voilà, donc je vous dirai ce que ça donne, je sais pas du tout, mais je suis assez curieux en fait j'avais jamais pensé, parce que quand on connaît les audio guides évidemment, bah on arrive à l'entrée du musée puis ils nous donnent un appareil, on le met dans ses oreilles etc, et là en fait on a tous des smartphones, on a tous souvent des écouteurs maintenant, en plus encore plus avec les AirPods et tous les écouteurs sans fil, donc bah c'est évidemment, ça paraît complètement logique en fait d'avoir des audio guides sur son téléphone, donc voilà, bref, ça, c'était le petit encart voyage touristique, je vous dirai ce que ça donne, allez à plus tard. On est jeudi, jeudi et aujourd'hui c'est un petit peu à la fin de l'aventure No Good House. Voilà, c'est un petit peu triste, mais ça fait une grosse baisse de tension un peu après toutes ces émotions pendant un mois d'avoir eu des gens tout le temps. Donc on avait Alexandre Talon et Benoît Marie de Xar qui étaient là. On passait quelques jours avec nous. Ils viennent de partir aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve tout seul, tous les deux avec Stan, pendant encore 3 jours. Et on a décidé d'aller vadrouiller un petit peu en dehors d'Athènes. Donc on a loué une voiture et puis demain on va partir en direction de Kalamata et puis explorer un petit peu cette région. Je vous raconterai ça dans un prochain audio. Mais voilà, donc c'était juste pour dire ça. Je suis en train de marcher, d'aller en direction d'une amie par hasard qui se trouve à Athènes en même temps. Donc, je suis en direction de son appartement à côté de l'Acropole, voilà, pour aller boire un verre. Et voilà, ça me fait, je sais pas, une petite émotion quand même, de rien, voilà, d'arriver un petit peu sur la fin du séjour. On est assez fatigués, je dois avouer, avec Stan. Tous les deux, là par exemple, Stan est resté à la maison pour se reposer. Voilà, parce que d'avoir des gens tout le temps qui arrivent plein d'énergie, plein de motivation, bah, c'est assez... c'est pas évident. Donc voilà, mais c'était très cool, hein, ça fait... Mais voilà, là ça fait d'un coup un peu... comme ils sont partis les deux en même temps en plus, ça fait vraiment une espèce de baisse de tension, c'est assez rigolo. Mais voilà, donc... j'ai raté la rue. Voilà, voilà, encore une fois, je vais le répéter pour la 10e fois dans ce podcast, mais je ne passe toujours pas de l'Acropole et de toute la beauté qu'on a. Après, la ville d'Athènes en elle-même, très franchement, à part le petit quartier de Plaka qui est en bas de l'Acropole, qui est un petit peu la vieille ville, je veux dire que sinon, le reste, bon, est un peu banal. Enfin, voilà, après, les quartiers sont un peu différents, mais c'est pas non plus l'éclate. Enfin, faut dire, on a vraiment bien quadrillé. En tout cas, notre secteur, hein, vraiment, à force de balade. Comme je fais des balades tous les matins, entre mes courses et juste mes promenades. Donc voilà, ça commence à monter, donc je perds ma respiration en même temps que je parle. Bah, écoutez, de toute façon, je vais m'arrêter là, et puis je referai un petit dernier, probablement, audio pendant notre petit voyage de fin. Voilà, allez, à plus tard.
Je retiens une chose quand même de ce séjour. C'est à la fois la différence qu'on a tous et en même temps une ressemblance. C'est-à-dire que finalement, on a énormément de points communs tous, que ce soit dans le parcours, que ce soit dans la vision des choses, etc. Et c'est assez drôle, ou même le fait qu'on prenne, par exemple, qu'Alex, tu boives du thé comme moi. Voilà, en fait, il y a quand même beaucoup de ressemblances, mais sur des parcours qui sont complètement différents. Alors, Xavier ne dirait pas ça, mais au final, personne n'a finalement fait la même chose. On a des personnes qui ont fait des études, d'autres qui n'en ont pas fait, certains qui ont galéré dans des jobs, d'autres qui faisaient autre chose. C'est vraiment très varié. On a des jeunes, des moins jeunes, on a des gens qui ont des enfants, on a des gens qui n'ont pas d'enfants, etc. Et c'est en fait, on a une énorme diversité, mais on arrive finalement à se trouver des points communs.
Ce que je retiens des discussions qu'on a eues, c'est pas tant le no-code, c'est plus le mindset de toujours vouloir tester des choses et de pas avoir de préjugés, de pas se dire je suis pas développeur, je suis pas ci, je suis pas ça, mais de tout le temps tester, se poser des questions. Et ça sert énormément dans le no-code, mais ça sert dans plein de domaines. Et notamment quand j'en ai parlé à Stan, Lilian, même Alexandre, enfin tout le monde, c'est ce côté je teste des choses. C'est un peu un professeur fou, un ingénieur, quoi. Tester tout le temps et pas se prendre la tête. Et au final, ça va servir quelques années plus tard, des fois, mais toujours apprendre.
Il y a eu énormément de discussions, de débats. Non, je dirais qu'il y a eu. Mine de rien, les discussions liées à l'écologie, à la politique, un petit peu. Sont forcément des conversations qui sont marquantes, et même si on se rejoint plus ou moins sur les idées et puis la conversation de ce soir, mine de rien, autour des films, des séries, des jeux de société, tout ça, c'était plutôt cool. Donc voilà, ça faisait une vraie fracture, je dirais, avec le no-code, qui est notre sujet un petit peu de prédilection.
J'ai beaucoup aimé le live Twitch d'Adrien hier, de découvrir un peu mieux son parcours. Et aussi d'écouter, bon, j'ai croisé Muriel rapidement, j'avais écouté un bout de son live Twitch la semaine dernière. Je me rends compte que le no-code a été salvateur aussi pour un certain nombre de personnes. Et je pense que c'est ça que je vais retirer des différentes discussions qu'on a pu avoir. Que parfois ça a répondu à un manque qu'on avait dans nos vies professionnelles. Enfin, ouais, il y a un vrai côté salvateur quoi, du no-code pour des gens qui avaient un parcours difficile et où du coup ils ont réussi à s'en extraire grâce au no-code, soit des gens qui n'ont pas forcément un parcours difficile mais qui se cherchaient un peu et qui ont fini par se trouver dans le no-code. Et je trouve que ça transparaît souvent dans les discussions qu'on peut avoir avec les membres de la communauté.
Alors moi, d'un côté, j'ai bien aimé la vision quand on avait beaucoup d'échanges avec Georges par rapport aux États-Unis et nous en France, un peu les différences et tout. Et en dehors de notre travail, il y avait beaucoup de discussions philosophiques sur, sur plein de sujets, on va dire, distincts et variés. Mais j'ai bien aimé en fait ce côté-là où on pouvait un peu plus s'évader. On refait le monde, c'est ça, entre nous. Et j'ai bien aimé ce côté-là, franchement.
Ouais, ces conversations-là m'ont énormément plu. Moi, ça c'est mon côté, comme vous tous français, où j'aime beaucoup débattre de ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'on a eu des conversations très intéressantes, au-delà du no-code, sur un peu les différences culturelles entre France et États-Unis, que ce soit en politique, que ce soit... On a abordé la notion de syndicat du no-code et des choses comme ça. Donc, ça a été super intéressant. Moi, je suis aussi curieux de l'aspect formation, comme Alex et Stan donnent et offrent des formations. Moi, c'est un aspect que je connais moins, mais dont j'ai senti la difficulté à DraftBeat de former des gens, etc., sur un seul outil. Donc, je suis curieux de savoir un peu cette perspective-là, comment est-ce qu'on forme les gens à d'autres outils. Donc, c'est dur de résumer les conversations, mais j'ai appris énormément. Et puis, j'aime beaucoup l'échange un peu là-dessus.
Voilà, ainsi s'achève cet épisode 99, ce petit voyage à Athènes, à la No Code House. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour essayer de faire un montage un petit peu sympa, un petit peu vivant. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a deux invités qui sont, même trois aussi, qui sont... absent de ce montage. En fait, il s'agit d'Alexandre Talon et de Benoît Marie de Xar, parce que malheureusement, emporté dans notre élan, on a complètement oublié de faire les petits enregistrements que j'avais fait religieusement avec tous les membres. Donc voilà, et puis j'avais prévu de faire un petit mot de la fin aussi avec Stan, évidemment quand même, mon compère avec qui on a organisé toute cette aventure. Voilà, malheureusement, il faut savoir qu'on a passé les trois derniers jours tout seul à faire un petit voyage en Grèce. On est allé à Kalamata, dans la région. Malheureusement, Stan était un peu malade, donc j'ai pas voulu lui infliger la petite pression de l'interview. Donc voilà, se finit un petit peu comme ça. C'est finalement plus surtout représentatif des trois premières semaines, des sept premiers invités. C'était juste là de faire le montage. Ça m'a beaucoup ému de réécouter tous ces échanges, tous ces bons moments. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était le 99e épisode. Il y en aura un 100e qu'on est en train d'organiser. Je vous en dirai plus très bientôt. Si le projet No Code House vous intéresse, le mieux, c'est de s'abonner à l'Instagram, No Code House, nocode.house. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Voilà, je ne sais pas si vous l'aurez découvert à l'occasion de cet épisode un petit peu spécial. D'habitude, on fait des interviews. Voilà, mais là, j'avais envie de faire quelque chose un petit peu différent autour de l'épisode 100. Et puis, parce que c'était de circonstance, puisqu'on vient de faire ce voyage. Et voilà. Merci beaucoup pour explorer bientôt avec nous le monde merveilleux du no-code sous encore des nouveaux formats d'émissions et évidemment avec le retour d'interviews, des interviews passionnantes des acteurs et des actrices qui font de cette communauté vraiment un mouvement absolument exceptionnel que je suis très heureux de documenter jour après jour, épisode après épisode.